A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière et vous êtes bien en train d'écouter Culture Numérique. Vous le savez, nous aimons vous proposer différents formats pour faire votre veille du digital et on ne le dit jamais assez, mais le numérique, ça ne serait rien sans ceux qui le construisent et ceux qui le font au quotidien. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, Émilie Benoît Vernet, qui dirige Shopify en France. Cette plateforme vous permet en 2-3 mouvements de créer votre e-commerce. Nous allons questionner Émilie sur l'avenir des commerçants physiques, l'évolution du e-commerce en période de crise sanitaire et son avis aussi sur le cas particulier d'Amazon en France. Bonjour Émilie.
Bonjour Ambroise.
Nous venons tout juste de sortir du confinement, on profite de quelques libertés retrouvées, mais le cauchemar, lui, il n'est pas encore terminé pour la majorité des commerçants qui doivent faire avec soit une productivité qui est en berne ou même encore un magasin qui est fermé. Alors qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à ces commerçants ?
Moi, j'ai envie de leur dire que déjà, on les soutient, vraiment. Je pense que l'ensemble de la tech et de la French Tech particulièrement soutient ces commerçants et se veut fort de pouvoir leur proposer des solutions pour les accompagner dans cette période de crise. Effectivement, des solutions qui passent par une digitalisation pour leur permettre plus d'agilité dans ces moments difficiles.
On sait qu'en général, les commerçants, c'est un public proactif, qui a envie d'avancer, qui a envie de vendre, donc qui est dans l'action en quelque sorte. Donc quand ils sont obligés de fermer, eh bien, ils se posent des questions. Mm-hmm. Et le e-commerce est évidemment l'une des réponses. Mais comment ça se fait en quelque sorte que les commerçants sont encore à ce niveau-là? Et pourquoi ils n'avaient pas déjà créé de la complémentarité? Pourquoi ils n'avaient pas déjà créé un e-commerce?
Disons que pour il y a plusieurs typologies de commerçants, je pense. Il y a effectivement un grand nombre d'acteurs qui avaient déjà le digital et l'e-commerce comme un canal de vente additionnel par rapport à leur parc de boutiques physiques ou leur boutique physique unique. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte vraiment de l'importance de ce canal e-commerce pour ceux qui n'en avaient pas encore et qui se sont retrouvés avec les boutiques fermées.
On sait aussi que la barrière du e-commerce a longtemps été technologique. Il fallait avoir les connaissances, il fallait avoir le budget assez copieux pour ouvrir une boutique en ligne. Et de fait, ça a relégué une majorité des commerçants qui n'avaient pas accès à cela, soit au budget, soit aux connaissances. Peut-on les rassurer aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y avait vraiment une perception il y a quelques années qui était soit on est un commerçant en physique, soit on est un commerçant en ligne, et si on est un commerçant 100% physique, le digital et l'e-commerce apparaissant comme un petit peu inatteignable, en se disant moi j'ai pas du tout de compétences techniques, je n'y connais rien, c'est un jargon qui me dépasse complètement. Donc ça, cette barrière d'entrée à l'e-commerce, elle est tombée notamment grâce à des acteurs comme Shopify qui proposent des solutions hébergées et clés en main, qui permettent à une personne n'ayant aucun prérequis technique, très simplement, de pouvoir ouvrir sa boutique en ligne. Donc du coup, cette accessibilité de l'e-commerce, elle a commencé à créer une démocratisation et des acteurs ont pu, au fil de l'eau, s'y essayer, se rendre compte que les coûts étaient moindres forcément qu'avoir une boutique physique et que ça représentait une vraie opportunité.
Bon, j'entends, il n'y a pas de difficulté particulière, donc il n'y a pas de difficulté technologique, il n'y a pas de difficulté budgétaire plus que de mesure. Mais alors, où réside cette difficulté ? Parce que, une fois de plus, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de commerçants qui n'ont pas de e-commerce. Mon discours n'est pas de dire que tout le monde devrait avoir un e-commerce, mais là, il y a clairement encore une marge.
Je pense qu'il peut y avoir quelque part, parfois, des freins psychologiques. Et il peut y avoir aussi un manque de temps. Vraiment, parce que le commerçant, il a une vie bien remplie, très occupée, surtout dans ces périodes difficiles. Et du coup, même si on est sur des solutions accessibles, par exemple, nous, chez Shopify, on travaille avec un réseau d'agences partenaires qui sont là pour accompagner les commerçants, pour à la fois leur permettre de lancer leur site et ensuite de les accompagner dans le business en ligne en général. Puisque l'aventure e-commerce, elle ne s'arrête pas à la création du site, elle va bien au-delà avec tout ce qu'on va appeler le marketing, la façon de gérer de la publicité et de générer du trafic pour son site. Dans le cadre de la crise du Covid, nous justement, on a travaillé avec nos partenaires agences pour permettre une offre packagée qui est 500 euros où une agence accompagne un commerçant pour une mise en ligne en 72 heures de son site.
Alors, désolé d'être un peu binaire, de mettre en opposition deux aspects, mais la question elle se pose, qui est le plus résilient aujourd'hui entre un e-commerce qui dépend de la logistique nationale, voire mondiale, donc qui peut très vite être gelé, on l'a vu, hein, notre économie elle est fragile, ou d'un autre côté, le commerce local qui dépend lui du mouvement des personnes et qui, en effet, est l'élément qui a posé souci là, sur ce confinement.
Bah là, je pense que quoi qu'il arrive, le digital peut apporter des réponses à ces deux segments, je dirais. C'est-à-dire que des commerçants physiques qui se retrouvent bloqués, le digital va pouvoir leur permettre, par exemple, de mettre en place des solutions de click and collect avec des prises de commandes en ligne où des personnes peuvent venir chercher les produits soit à l'entrée du magasin, soit même, on l'a vu sur des exploitations agricoles, un petit peu des producteurs qui vendaient du coup en direct aux consommateurs. Ça peut permettre aussi le digital pour des boutiques 100% fermées de mettre en place un système de vente de cartes cadeaux qui, en faisant appel à les commerçants, en faisant appel à leur communauté, vont pouvoir générer du cash flow pour les aider pendant cette période de fermeture. Et ensuite, pour ceux qui, effectivement, sont déjà en ligne et comment ils s'en sortent avec les contraintes logistiques, etc., il y a une logique aussi d'adaptabilité que peut permettre le digital, notamment avec les acteurs de la logistique dite du dernier kilomètre. Nous, avec Shopify, on lance un partenariat avec Stuart qui propose des livraisons en vélo dans les grandes villes pour permettre à une boutique qui aurait un point de vente physique et qui ne souhaite pas dépendre d'un gros prestataire de la logistique qui pourrait avoir ses contraintes, de faire des livraisons avec des coursiers en vélo de manière beaucoup plus simple.
Est-ce que vous avez mesuré des changements chez Shopify pendant la période de confinement sur les tendances du e-commerce, que ce soit des produits qui ont marché en particulier, des secteurs qui ont été valorisés ou tout simplement une plus forte activité au global ?
Alors effectivement, nous, ce qu'on a constaté au niveau global, donc Shopify étant présent dans 175 pays et étant la solution utilisée par 1 million d'entrepreneurs, au niveau global, on a constaté en mars que la création de nouvelles boutiques en ligne avait augmenté de 49% par rapport à l'année dernière. Et ensuite, pour parler des produits qui ont le plus de succès, je pense que sans surprise, tout ce qui va être les produits qui ont été utilisés, on va dire, à la maison, tout ce qui est dans l'univers des ustensiles de cuisine, les couvertures et aussi, par exemple, les nettoyants pour voitures. Je pense qu'il y a des gens qui ont profité de ce confinement pour un petit peu refaire une beauté à leur véhicule. Mais ça, c'est des catégories de produits qu'on a vu bien progresser, oui.
Pour ceux qui avaient déjà leur e-commerce, donc qui sont déjà en quelque sorte en activité, est-ce que ça a été une meilleure période, le confinement ?
Alors, je pense que c'est assez variable. Déjà, il y a des e-commerçants qui ont choisi de mettre leur activité en pause et de proposer soit des préventes avec des commandes qui seraient livrées plus tard. Il y en a qui ont choisi complètement de fermer leur activité parce qu'eux-mêmes étaient pris par des contraintes, ils devaient s'occuper de leur famille, leurs employés n'étaient plus disponibles, etc. Et il y en a d'autres qui ont fait le choix de maintenir leur activité et qui, les gens ne pouvant plus faire de shopping, ont bénéficié, je pense, aussi du shopping en ligne, très clairement, oui.
Alors, ces e-commerçants, est-ce qu'ils vont pas avoir plus de concurrence, justement, au vu de cette forte création de e-commerce récemment ?
L'e-commerce est vaste, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et ce qui fera un e-commerce vraiment réussi dans le futur, c'est justement la diversité et l'émergence de plus en plus de marques et de marchands indépendants. Donc du coup, au contraire, je pense que des choix encore plus riches, ça amène les gens vers l'e-commerce de manière générale et ça bénéficie l'ensemble de la chaîne.
Que penser du cas Amazon ? Amazon, c'est le plus grand des e-commerce, c'est le premier nom qui nous vient en tête quand on parle de sujet de e-commerce. On voit qu'en France, ça s'est mal passé avec une pleine activité limitée alors que le confinement commençait. Donc une fois de plus, Amazon a ce côté cas à part. Et puis au final, eh bien obligé de s'arrêter avec un refus du chômage partiel, des commerçants physiques qui grognent. Bon, qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on tape sur un représentant du e-commerce, ou au contraire, est-ce que on peut se dire que c'est encore clivant tout ça ?
Moi, je ne sais pas si je suis la plus à même pour commenter cette situation particulièrement. Moi, ce que je dirais, c'est que le canal de vente Marketplace, c'est un canal de vente additionnel important pour les e-commerçants, parce qu'il leur permet d'être dans un carrefour d'audience, donc d'attirer plus de clients potentiels, etc. Pour moi, le canal Marketplace, c'est un canal additionnel dans un mix plus global qui comprend une boutique en ligne en propre qui garantit aux commerçants l'indépendance, son indépendance au niveau de sa politique tarifaire et aussi le contrôle sur ses données clients qui lui permettent vraiment d'avoir une marque avec des produits bien définis, d'avoir un lien avec sa communauté, etc. Donc moi, tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que je pense que les marketplaces sont incontournables aujourd'hui et qu'elles sont une brique essentielle du mix d'un e-commerçant aux côtés de la boutique en propre.
Allez, on termine avec une ouverture sur l'avenir. C'est quoi le e-commerce de demain ? Qu'est-ce qui serait le e-commerce qui serait juste et qui trouvera un énorme écho dans les semaines, les mois, les années à venir ?
Pour moi, et je pense pour nous chez Shopify, l'e-commerce de l'avenir, c'est le commerce de l'avenir. C'est-à-dire que c'est un commerce sans couture, un commerce complètement multicanal qui va allier le point de vente physique, la boutique en ligne, des ventes sur les marketplaces, des ventes sur les réseaux sociaux. Une intégration qui permet aux marchands d'avoir un point de contact, un point de rendez-vous avec son client où qu'il se trouve.
Merci pour cet échange, Émilie. On aura compris qu'il n'y a pas de bonnes excuses pour ne pas lancer son e-commerce sur Shopify. Donc vous aurez compris qu'avec cette double négation, vous n'avez plus qu'à faire le taf. Si cette interview vous a plu, partagez-la et notez-nous sur Apple Podcast, ça nous aide. Et on se dit à bientôt sur siècledigital.fr.
Merci, Ambroise.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.